Bien, bonjour à chacune et chacun. Pour certains, je vous connais déjà puisque j'ai fait partie des trois sessions, enfin, la première, la deuxième et la troisième. Et avec Charlotte, nous avons organisé un peu ces dynamiques-là et avec Gilbert aussi au titre de la classe. Alors, on vous a entendu avec beaucoup de plaisir, d'abord, et puis avec un grand intérêt ensuite. Moi, ce que je retiens, avant de vous donner la parole à chacune et à chacun, et d'essayer de coordonner les questions, est-ce que vous préférez répondre à chacune des questions, ou est-ce que vous préférez avoir une ou deux questions à vous filer ?
On pourra mettre deux à la suite, parce qu'après, on va les oublier. Donc.
Exactement. Donc, je vous proposerai deux questions. Ce que je voulais simplement dire en introduction, c'est que vous nous avez, Nicolas Hulot, appelé à nous changer. Pas simplement à rester les deux pieds dans la glaise, mais bien à nous changer, à réveiller nos consciences, et à réveiller nos consciences pour une solidarité. Moi, j'y ajouterai un mot, mais ça fait partie de ma culture, j'y ajouterai le mot fraternité. Pas simplement parce qu'il y a une encyclique qui vient de sortir, mais parce que je pense aujourd'hui que la fraternité est un des éléments essentiels également de notre société, au-delà de la solidarité. La preuve, le Conseil constitutionnel l'a même retenu et reconnu. Voilà, donc je vais laisser la parole à la salle, j'essaierai d'organiser de telle façon que les questions soit de bonne aloi et surtout qu'elle aille toujours dans un sens du respect de chacun.
Des questions ?
Bon, merci pour votre introduction. Je voudrais plutôt revenir sur, peut-être plus précisément, sur le climat, si c'est possible. J'ai, comme beaucoup d'ici certainement, eu l'occasion de lire un article en West France il y a peu de temps qui parlait de la Chine. Et j'aurais voulu connaître votre sentiment sur la Chine, parce que la Chine, leur responsable, envisage d'ici 2060 le zéro émission de carbone. C'est assez impressionnant, sachant qu'aujourd'hui, d'après l'article, il y avait 28% des émissions qui étaient produites par la Chine au niveau mondial, c'est-à-dire 9,6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est colossal, on n'imagine même pas ce que ça peut être dans nos cerveaux. Et depuis déjà quelques années, moi je reviens à votre sentiment sur la question, parce que depuis quelques années, je m'interroge sur la Chine et sa capacité, et on voit avec le Covid, la Covid de ce qui se passe actuellement, sa capacité à peut-être bouleverser l'ordre mondial. Alors, j'aimerais avoir votre sentiment sur la Chine, parce que ma petite idée à moi, c'est que si demain il y a une vraie révolution dans le domaine climatique, elle viendra de la Chine, probablement du fait de sa culture et de cette capacité qu'ont peut-être maintenant depuis des siècles ce pays à marcher droit comme un lit, quoi, droit comme un lit, comme je pense que sont utilisés, mais très disciplinés, quoi. Et pour, changer l'ordre des choses au niveau climatique, je me demande s'il ne faut pas aussi, par moment, être très, très, très discipliné, chose que nous ne sommes pas de nature.
Y a-t-il une question qui va dans le même sens ?
Elle est déjà très vaste. Mais...
Oui, elle est énorme.
Pour prendre un versant qui est plus proche de nous, c'est-à-dire un versant démocratique. Lorsque vous dites, monsieur Hulot, que l'humanité, vous en connaissez deux, je pense que dans la salle, on va tous dire oui. Je pense également que dans la salle, on va tous avoir envie de se placer dans la bonne. L'un de vos camarades, un homme que vous connaissez bien, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, dit que dans certaines enquêtes sociales, quand on demande aux gens de définir qu'est-ce que c'est qu'avoir une aisance correcte pour vivre, la réponse qui fut, c'est « mon revenu plus 10%. » Donc, à partir de quel curseur, à partir de quel stade dans nos démocraties, pour pouvoir fonctionner dans une discipline volontaire, c'est là que je rejoins un peu la problématique, comment est-ce qu'on va faire dans nos démocraties pour nous persuader, nous, qu'à un moment donné, nous sommes riches? Et à partir de quand pouvons-nous dire que nous le sommes et que nous devons produire un effort?
Je n'oublierai pas la question, je vais commencer par la première. Bon,
Sur la Chine, effectivement, vous savez, il y a eu souvent cette confrontation quand on préparait la COP21 des Américains qui s'opposaient aux Chinois parce qu'on disait que c'était la Chine qui était le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Mais en réalité, par habitant, ce sont les Américains qui sont les... Peu importe. En tout cas, ils ont évidemment, compte tenu de leur démographie, un impact très important. Il faut savoir que dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même un paramètre qu'il faut bien garder à l'esprit. L'Occident, et à commencer par l'Europe, a une grande responsabilité puisque nous sous-traitons, nous externalisons énormément d'émissions de gaz à effet de serre avec la Chine. C'est pour ça aussi que de temps en temps, quand on se gausse en disant vous voyez, par rapport à la Chine, il faut me garder à l'esprit. Et c'est pour ça d'ailleurs que si jamais, pour différentes raisons, nous relocalisons une partie de nos industries, il faudra qu'on les prenne en charge, ces émissions, parce qu'elles seront évidemment comptabilisées. Voilà. Et de toute façon, compte tenu du développement de la Chine, ne pourront pas toujours produire pour le reste de l'Europe. Donc il y a un équilibre qui va se faire et qui va rendre d'autant plus difficile nous de tenir nos objectifs, parce qu'en l'état déjà, on a du mal, évidemment, à réduire nos émissions, mais quand en plus on va relocaliser un certain nombre de secteurs, si par exemple dans les laboratoires, comme on l'a évoqué pendant la crise sanitaire, on fait revenir un certain nombre de laboratoires en Europe, eh bien c'est autant d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires qu'il faudra réduire. Ce qui est certain, pour avoir été souvent en Chine, ils ont un sens de la planification que nous n'avons pas, mais qui s'affranchit évidemment des règles démocratiques. Et c'est toute la question actuelle. Vous savez, Victor Hugo disait « Le progrès, c'est la révolution faite à la mienne. » Et la révolution, elle se fera de gré ou de force. Et c'est pour ça qu'on est tous tendus, c'est qu'on sait bien qu'on a une fenêtre de tir, puisqu'on a cette fameuse décennie critique. Il faut faire cette révolution à l'amiable, donc d'une manière démocratique, mais il faut peut-être adapter nos démocraties pour que trouver ce point de synchronisation, de compréhension entre l'action politique et la volonté citoyenne. Puisqu'aujourd'hui, tout est suspect. Et il y a une défiance absolue, on ne va pas rentrer dans le détail de savoir pourquoi, enfin qui s'est fait au fil du temps et qui, malheureusement, ne s'améliore pas au fil du temps, entre le citoyen et le politique, quoi qu'il fasse aujourd'hui, on le suspecte. Bon. Donc il va falloir résoudre ça et trouver, on pourra en parler si vous voulez, des moyens d'avoir une démocratie plus inclusive qui permette d'embarquer évidemment le citoyen dans le changement, parce que dans une démocratie qui est très vivace comme la nôtre, coordonnée ou alimentée aussi par le jeu des médias qui aiment bien organiser la confrontation, eh bien, quand on doit déjà faire des petits changements structurels, c'est pas ça, mais des changements systémiques, surtout pour employer à bon escient la phrase de Saint-Augustin, qui explique un peu les réticences que nous avons au changement. Il dit « La peur de perdre ce que nous avons nous empêche d'atteindre ce que nous voudrions ». Donc on est dans une société qui est très, parfois un peu paradoxale, qui aimerait le changement, mais... si possible, on l'essaye ailleurs, et not in my garden, comme on le dit. Donc, ce n'est pas simple. Donc, on a une démocratie qui est prise de court par à la fois la précipitation du temps, par le fait qu'il faut combiner le court terme et le long terme, et que souvent, si vous voulez préserver le long terme, vous prenez une décision, mais elle impacte le court terme, et réciproquement, vous prenez une décision pour soulager le court terme. L'exemple classique, hein, vous le savez, c'était la taxe carbone. Si vous voulez protéger l'atmosphère, vous augmentez le prix du carbone, mais si vous voulez emmerder tout le monde, vous augmentez le prix de l'essence. Je caricature, mais c'est à ce type de confrontation. Donc ce qui est clair, c'est que, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas comment faire. Dans nos démocraties, on ne sait pas comment faire. Et donc si on veut éviter que ça se fasse d'une manière coercitive plus tard, fameuse cauchemar dont certains parlent, une dictature verte, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'à un moment, il faut quand même comprendre que la pénurie, si on bascule la pénurie, c'est le creuset de toutes les barbaries. Bon, donc, c'est évident, on s'est fait la guerre pour des choses parfois futiles, pour des choses réelles, enfin, pour le pétrole notamment, mais quand on sera en tension sur l'eau, sur les terres arables, sur les ressources dont dépend notre modèle économique, ça va être compliqué. Donc la question, c'est comment, dans nos démocraties, moi je raisonne pour l'instant... à l'espace européen, parce que je pense que c'est le bon espace pour faire jaillir une matrice qui pourraient inspirer les autres, comment le faire démocratiquement. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est la question fondamentale. Donc je pense qu'il faut associer, il y a eu un petit exemple récent que vous avez entendu parler, bon, qui n'était pas reproductible à l'identique, mais la Convention citoyenne sur le climat, c'est une manière, je trouve, de faire de la démocratie intelligente, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens triés un peu au hasard, qu'on pas d'idées reçues, qui connaissent dans certains domaines ou qui connaissent rien, et puis on leur donne, avec des rencontres avec un certain nombre d'experts, de gens compétents, on leur donne une compréhension d'une difficulté, voilà. Et puis on regarde avec eux ce qui permet de résoudre cette difficulté. Dit autrement, on associe le citoyen à la complexité. Ça, c'est très important. Mais en même temps, on permet aux politiques de s'inspirer également de la créativité ou de la vision du citoyen, puisqu'il n'y a pas d'exclusivité dans l'intelligence et dans la lucidité. Et donc, à mon avis, nos démocraties devront reproduire à grande échelle ce type de forme. Voilà. Parce que si on ne comprend pas la pertinence d'une mutation ou d'un changement, on est plutôt, comment dire, réservé. Voilà. Et il va falloir donc que, dans cette mutation, eh bien, chacun comprenne en quoi ça va nous épargner des détresses et des souffrances, et en même temps ce que ça peut faire jaillir comme modèle social et comme modèle économique dont nous pourrons bénéficier de toutes les vertus. Donc il va falloir, mais c'est difficile de faire de la pédagogie aujourd'hui parce qu'il y a un tel bruit de fond, et notamment, pardon, je ne veux pas charger les médias, mais notamment entretenu par les médias, que c'est très difficile de distinguer l'essentiel du superflu. Et comme disait l'autre, l'essentiel est toujours menacé par le superflu. Et c'est vrai que la Chine, je peux en témoigner, eux, quand ils décident quelque chose, on parle d'économie circulaire, par exemple, qui devient un des sujets, des objectifs sur lesquels il faudra qu'on travaille. Mais il y a déjà 6 ou 7 ans, quand j'avais été en Chine, ils avaient voté une loi organique d'économie circulaire avec une réduction des flux de matière. Puis je peux vous dire qu'ils les monitorent année pour année après année parce qu'il y a des points de passage obligatoires, et si les entreprises n'opèrent pas cette réduction de flux de matière, pouf, il y a des sanctions. Je ne veux pas qu'on en arrive là, évidemment, chez nous, mais c'est vrai que quand j'ai vu revenir, pour l'échelle de la France, un commissariat au plan chez nous, je pense que c'est important de planifier le changement. Mais si on veut une société qui change, et c'est mon grand credo actuel, mais c'est peut-être l'enseignement majeur que j'ai tiré de ma petite expérience gouvernementale. Il faut 3 principes pour embarquer une société dans le changement. Un premier principe, c'est un principe de prévisibilité. C'est-à-dire que, je prends un exemple sur un cas particulier, sans faire de provocation, mais on dit, parce que la science nous a dit que c'était une molécule dangereuse, il faut sortir du glyphosate. Bon, très bien. D'un côté, vous avez des irréductibles qui vous disent on en sort demain matin parce que c'est dangereux. Intellectuellement, ils ont raison, si c'est dangereux, il faut en sortir demain matin. Mais rationnellement, je leur laisse aller annoncer du jour au lendemain au monde paysan qu'il faut se priver de cette molécule. C'est pas possible. Bon. Puis après, il y avait cette tendance, j'y étais confronté, de dire allez, on le réautorise pour 10 ans, pour nous laisser un peu de temps. Bon, c'est très bien qu'à chaque fois qu'on réautorise quelque chose, si ça n'est pas sorti d'une contrainte, il ne se passe rien. Donc prévisibilité, en fonction de la difficulté de l'exercice. Si c'est la neutralité carbone, c'est 2050. Si c'est la fin des véhicules thermiques, c'est 2035. En fonction de la difficulté. Voilà. Irréversibilité. On inscrit dans la loi, ou dans la norme, ou dans la réglementation. Sinon, s'il y a le moindre doute que, à cause d'une alternance politique ou de je ne sais quel événement qui va faire de l'ombre à cet impératif, on ne le fera pas. Et progressivité, et ça c'est la clé du tout, progressivité, c'est d'être capable d'identifier les femmes, les hommes, les secteurs qui vont être concernés, impactés par ce changement. Il y a des activités qui vont avoir soit à muter, soit à disparaître, et donc à se transformer. Et c'est vrai dans tous les domaines. Quand tout d'un coup, on met simultanément une augmentation de la taxe carbone, un rattrapage du diesel sur l'essence, ben le gars qui est en périphérie des grandes villes, qui a évidemment un tarif immobilier pas trop cher parce qu'il n'y a pas de transport en commun, qui ne peut pas faire autrement que de prendre sa bagnole diesel, parce que pendant des années, on lui a donné une incitation fiscale pour acheter le diesel, évidemment, ça se termine mal. En revanche, si vous programmez et que vous savez qu'à partir d'une certaine date, bien entendu, il y a un type de véhicules qui ne seront plus en vente et qu'on vous met un dispositif à ce moment-là pour en changer, voilà, ça c'est la programmation et c'est ce qui fait tant défaut. Et je sais que tout à l'heure, je ne sais plus qui voulait m'interroger sur les néonicotinoïdes, il se trouve que c'est l'actualité du moment. C'est pas la question aussi, c'est la question de la méthode. On interdit une molécule, je suis le premier, c'est moi qui l'avais obtenu. Sauf que qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Est-ce que le lendemain on a essayé de regarder mode de production par mode de production où il y avait des impasses et de regarder là où il y avait des alternatives? On n'a rien fait. Donc on arrive dans cette situation, le secteur betteravier, on découvre ça du jour au lendemain, au bout de 3 ans, ils n'ont pas d'alternative. En plus, ils se prennent la fin, ce qu'on appelle les quotas sucriers, donc ils sont complètement plombiers. Donc on a le choix entre la peste et le choléra. La peste, c'est qu'on relance les néonicotinoïdes, le choléra, c'est que ça détruit 1300 emplois. Donc la méthode est évidemment très importante. Voilà. Mais, et donc, juste pour revenir à la Chine, oui, c'est un rouleau compresseur, mais je ne pense pas qu'il faille s'en inspirer. D'autant que c'est un rouleau compresseur qui ne s'embarrasse pas des moyens. Par exemple, la Chine, qui a très bien anticipé, compte tenu de sa courbe démographique, la raréfaction des terres agricoles, elle a mis la main sur la plupart des ressources en Afrique au moment où l'Europe s'est désengagée. Et je peux vous dire qu'elle l'a fait d'une manière totalement insupportable. Bon, donc j'espère que nous saurons faire les choses évidemment différemment. Voilà ce que je voulais dire. Alors après, vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure sur la question de... Ah oui, voilà, pardon. Bon. Non. Si on veut un monde qui partage, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, hein, encore une fois, moi je ne me place pas ici sur la question de la morale, puisque je considère qu'un monde qui ne partage pas n'a pas d'issue pacifique. Voilà. Puisque maintenant, ceux qui sont dépossédés le savent. Bon. Donc il ne faut pas un monde qui concentre la richesse. Tant que nous serons dans un monde, pour employer ce chiffre qui est une norme de grandeur, où 1% capte 93% de la richesse, dans un monde où ça se sait, où ça se voit, c'est clair qu'on n'aura pas des relations sociétales apaisées, qui permettront justement de mettre les esprits dans une disponibilité au changement. Pourquoi d'ailleurs nous, les associations écolos, on travaille maintenant avec les syndicats et avec les associations humanitaires? Parce qu'on a bien compris que si on n'associe pas et si on ne rend pas, comment dire, inséparable l'enjeu social et l'enjeu écologique, on n'embarquera pas la société. Donc oui, la société, elle va avoir à se fixer un certain nombre de plafonds, bien entendu, dans l'accumulation des richesses, probablement dans les salaires, dans les choses comme ça. Alors, à quel niveau, franchement, j'en sais rien. Mais ça, c'est justement les règles communes que l'on doit se fixer ensemble. Il y a un outil, je sais que ce n'est pas très, comment dire, souriant d'en parler, mais qui s'appelle la fiscalité. Nous sommes nuls sur le plan de la fiscalité, et notamment au niveau européen. Parce qu'on a une fiscalité qui pénalise toujours les mêmes, les TPE, les PME ou les classes moyennes, parce qu'ils sont très visibles, très transparentes, et c'est très facile d'aller chercher des sous. Mais les politiques se sont laissés au fil du temps dépossédés d'un pan entier de l'économie, parce qu'il y a une ingénierie économique et financière qui s'est organisée pour, en toute légalité mais en toute immoralité, ne pas participer à la solidarité des États. Donc aujourd'hui, je pense que les limites qu'il faut mettre, c'est des limites sur des concentrations et surtout des limites, même pas des limites, un arrêt à l'exclusion de la solidarité, c'est-à-dire l'optimisation fiscale, pour ne même pas parler de l'évasion fiscale illégale, c'est insupportable. Et ça représente un pan entier de l'économie. Et je pense aussi qu'il faut avoir une transformation complète de la fiscalité, d'avoir une fiscalité qui soulage le travail, c'est-à-dire aujourd'hui les prélèvements obligatoires, la majorité pèse directement ou indirectement sur l'emploi, donc c'est un peu décourageant pour les travailleurs. Il vaudrait mieux que cette fiscalité pèse sur tous les revenus qui ne sont pas issus du travail, et c'est là à mon avis qu'il faut mettre le paquet, les revenus de rente, les revenus de spéculation, et croyez-moi, il y a du grain à moudre. Et puis, il faut aussi comprendre, et c'est là aussi que le politique doit intervenir, souvent on me dit, mais on est trop nombreux sur Terre. Bon, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet tellement touchy et délicat que moi, j'essaie de ne pas m'y aventurer. Je dis que la seule réponse, c'est l'éducation. Voilà. Mais il y a un des pionniers de l'écologie qui s'appelait René Dubos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de René Dubos. C'est à lui qu'on doit cette formule. Il faut penser globalement et agir localement. Il avait eu cette formule. Il avait dit, c'est pas l'homme qui pose problème, c'est la masse de choses inutiles qui traîne derrière lui. Alors, plus modernement, d'une manière plus moderne, ce qu'il faut éradiquer avant tout, c'est aussi la civilisation du gâchis. Parce que ce qui fait aussi que nos ressources s'épuisent, c'est que nous avons énormément, dans beaucoup de domaines, de prélèvements indus. Voilà. L'exemple, les deux exemples classiques, mais c'est un des exemples parmi d'autres. En agriculture, par exemple, à l'échelle du monde, c'est l'agriculture qui prélève 60% de l'eau de la planète. Bon. Et bien, si on utilisait à bon escient nos technologies, seulement 3 ou 4% de cette eau est vraiment nécessaire à la croissance de la plante. Vous avez des modes de production halieutique, enfin, d'exploitation des ressources halieutiques, où pour 4 espèces comestibles, vous allez en impacter une centaine. Bon. Voilà, il y a énormément de domaines comme ça. Mais ça n'empêche qu'il faut mettre des limites. Évidemment qu'il faut mettre des limites. Là, actuellement, on est en train de distribuer de l'argent public. Ça ne vous aura pas échappé d'ailleurs qui tout d'un coup tombe du ciel. Je ne dis pas ça par prosélytisme. Et j'espère que cet argent, comme ça a été le cas en 2008 ou à une autre époque quand on a fait le crédit d'impôt compétitivité et emploi, on ne va pas le retrouver dans les dividendes. Parce que c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Voilà, et que chaque denier public doit participer au bien public. Voilà ce que je voulais
dire. J'ai une autre question là. Merci. Vous avez proposé, Nicolas Hulot, des idées. Là, vous venez d'en proposer plusieurs. Et vous avez parlé des médias traditionnels qui simplifient. Vous êtes un peu négatif là-dessus. Vous avez évoqué furtivement votre départ du gouvernement et. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais comment vous, pour vous, comment concrètement vous pensez pouvoir agir? Et donc vous, comme exemple, et puis pour nous aussi. Et alors, j'ajouterai une question, puisque on est là avec... croyez-vous au pouvoir des nouveaux médias et festivals associatifs? Et sinon, sur le pouvoir politique, parce que là, vous avez parlé des politiques, mais est-ce que vous n'êtes pas désabusé? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même moyen? Enfin, voilà.
Juste, il n'y a pas de confusion, hein. Je ne fais pas de la démagogie en attaquant les médias en général. Je dis simplement, et on en a vu l'expérience et encore au quotidien, sur certains plateaux de télévision, notamment des chaînes infos, cette espèce de confusion de pseudo-experts qui déclinent en permanence leur vérité, qui n'apportent rien au débat. Je veux simplement dire que de temps en temps, et qui entretiennent la culture de la confrontation. Moi, quand je vais sur ces médias, ils ne cherchent pas, encore une fois, à comment dire, confronter mes idées, à les creuser, etc., etc. Ils veulent la petite phrase qui va me permettre de me mettre en opposition avec un personnage. Donc cette culture du ring, cette culture du duel, cette culture de la politique politicienne, qui est une politique partisane, elle est mortifère. Et donc, si on s'en débarrasse pas, voilà, on a besoin d'unité. Unité, ça ne veut pas dire d'uniformité, et ça ne veut pas dire on met le doigt sur la couture et on y va tous ensemble. Mais on a besoin d'unité sur les objectifs et sur les moyens. Voilà. Après, vous me demandez ce qu'on peut faire. Ben, vous savez, chacun, fait, dans sa vie personnelle, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut faire, je dis essayer, autant que faire se peut, de mettre un petit peu de conscience dans le quotidien. Bon, voilà. On a tous, dans nos choix de consommation, dans notre vie courante, des possibilités de dire ben, « je peux faire différemment, je peux faire mieux », voilà, sans rentrer dans une forme d'intégrisme et de purisme totalement insupportable, mais on peut rentrer dans un chemin de conscience et un chemin d'amélioration pour dire ben, « je peux faire différemment, je peux faire mieux, je peux mutualiser, je peux éviter cela ». Voilà, c'est un changement d'état d'esprit, justement nous déconditionner parce que nous avons été conditionnés par un système notamment marchand qui a fait de nous des automates, voilà, des consommateurs et non pas des consommateurs pour employer la fameuse formule. Il y a déjà ça. Après, on peut s'engager dans le tissu associatif. Moi, je le fais depuis plus de 30 ans puisque j'ai créé une fondation. Il y a plein de gens qui sont d'ailleurs sous les radars puisque je rappelle quand même qu'en France, une politique devrait le savoir, enfin s'en rappeler, il y a 13 millions de bénévoles. Donc c'est cette France discrète qui comble toutes les promesses que la République ne fait pas. Voilà, on peut s'engager. Bon. Mais après, ça ne génère pas, évidemment, les politiques. Bon. Il y a une question fondamentale qu'il faut poser, et que je pose dans le livre, parce que cette espèce de polarisation simpliste qui consiste à considérer d'un seul verdict que les politiques sont nuls, tous pourris, qui comprennent rien et qui pensent qu'à leur réélection. Ça ne fait pas avancer le chemin public. Parce que, pour avoir côtoyé les politiques, il en est dans les politiques comme dans la société civile, il y a de tout. J'ai rencontré des femmes et des hommes qui sont animés par le sens de l'intérêt général, qui travaillent jusqu'à plus d'heures, au détriment de leur vie de famille, qui essaient de faire avancer les choses. Après, il y a des cyniques, après, il y a des ambitieux, et tant mieux s'ils sont ambitieux, qui pensent plus à leur réélection peut-être qu'à l'intérêt général, mais il y a de tout. Mais comprenez une chose, le désir narcissique
d'un homme ou d'une femme politique, c'est d'être réélu, d'être regretté. Donc, posons-nous la question de savoir pourquoi, au fil des mandats, et notamment présidentiels, tous les 5 ans, je caricature, pardon, nous les Français, nous cédons à une forme d'enthousiasme, c'est-à-dire on a trouvé Merlin l'enchanteur, et le même qu'on a porté au nu, on est prêt à le clouer au pilori 2 ans après. Bon, est-ce que ça voudrait dire que nous sommes des électeurs stupides qui élisons des présidentes ou des présidents stupides? Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre démocratie qui ne fonctionne plus. Et moi, ça c'est la question pour moi fondamentale. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans la démocratie? Parce qu'encore une fois, le président actuel, précédent, il aurait préféré être réélu, pouvoir se représenter, acclamé par la foule en disant « Merci, vous avez changé notre vie au quotidien, vous nous avez mis sur une trajectoire de progrès, remis le pays sur les rails ». C'est ça dont ils rêvent. Ils le rêvent parce qu'ils sont empathiques, ou ils le rêvent simplement parce que ça leur permet de rentrer dans l'histoire. Bon. Donc c'est là que j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Nos démocraties sont fatiguées et usées. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre de côté. Il faut les adapter à la précipitation du temps. C'est-à-dire que, je cite cet exemple de mon expérience ministérielle, je passais mon temps à gueuler en disant « quand est-ce qu'on réfléchit ?» Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous êtes vraiment précipité comme ça dans une dynamique où vous traitez de l'urgence en permanence, vous faites beaucoup de représentations, beaucoup de communication, parce que si vous ne communiquez pas, on considère que vous ne foutez rien, mais vous n'avez plus le temps de vous projeter, d'évaluer, de monitorer. Voilà. Donc il faut adapter la démocratie. C'est pour ça que je pense que, entre autres adaptations, il faudrait que nous ayons une chambre supplémentaire qui pourrait être une émanation du Conseil économique, social et environnemental, où on mêlerait à la fois les corps intermédiaires, comme c'est le cas aujourd'hui, le tissu associatif, comme c'est le cas aujourd'hui, les scientifiques, les experts, bien entendu, les citoyens tirés au sort, et qu'on donne un pouvoir à cette institution et qui en charge le futur, c'est-à-dire le long terme, et la planification et l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire un lieu apaisé, documenté, que ce ne soit pas comme à l'Assemblée, au Sénat, cette espèce de théâtre où tout le monde s'étrie à la tribune pour se mettre la main sur l'épaule, après à la buvette. Voilà. Ça, il faut y mettre fin. Donc je pense que ça, c'est très important. On a besoin de ces temps de réflexion, de sortir un peu la tête de l'eau. Quand on est ministre, alors a fortiori dans le climat actuel, je peux vous dire que vous voyez, c'est déjà de ne pas buter sur les médias, c'est une qualité, parce qu'ils n'en manquent pas, mais du coup, on pilote dans l'urgence. Ça ne peut que mal terminer. Puis la deuxième chose, c'est qu'on fait des promesses dans nos démocraties, alors je ne sais pas si c'est plus important que le premier facteur, mais moi je mets le doigt dessus, qu'on sait ne pas pouvoir tenir. Parce qu'on ne s'en donne pas les moyens, et s'en donne pas les moyens parce que, jusqu'à ce qu'on arrive en plein cœur de la crise, on s'est mis des règles, et notamment des règles économiques et budgétaires, intangibles. On s'est mis des carcans financiers. Alors, on promet des choses, mais on part d'un postulat, c'est que nos États sont endettés. Et vous le savez, la première dépense de l'État, c'est les remboursements des intérêts de la dette. Bon. Donc, un foyer qui serait dans cette situation-là, il met la clé sous la porte. Et il est en banqueroute. Bon. Donc, nous, on fait semblant de ne pas savoir. Donc, on n'a pas l'argent. Mais pour engager une transition, pour résoudre les difficultés des plus précaires, des plus pauvres et des gens en difficulté, il faut de l'argent. Alors, en temps normal, on n'en trouve pas. Et alors, je veux dire, on ne sortira pas des règles budgétaires. Hein, pour donner aux gens la possibilité de manger leur faim, de se chauffer, d'avoir le minimum vital, là, non, on est dans une orthodoxie absolue. Et puis, quand on est en période de crise, là, il ne vous a pas échappé que, effectivement, les milliards arrivent de partout. Dès qu'il y a un problème, hop, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Bon. Je ne veux pas simplifier, mais les règles monétaires, ce ne sont pas, pardon, des lois divines, ce sont des produits de la société, ce sont des conventions sociales. Donc, est-ce que ces conventions, quand il s'agit de la dignité des gens, de la survie des gens, on ne peut pas, comme on le fait dans cette crise-là, à un moment ou à un autre, les remettre en cause? Donc c'est la vraie question. Mais en tout cas, à défaut de les remettre en cause, et on n'a pas hésité à faire tourner la planche à billets au moment de la crise de 2008, et on l'a fait actuellement, et allègrement, et moi je m'en réjouis, et au passage ce sont les banques centrales qui émettent cette dette, ce qui nous interdira à terme de demander aux banques centrales d'effacer, moi je pense qu'il n'y a rien qui m'ait convaincu qu'on ne puisse pas effacer cette dette, mais il y a aussi cette nécessité que les plus puissants, et je dis ça sans acrimonie, qu'on ne laisse plus s'organiser pour échapper à l'impôt et à la solidarité. Parce que le jour où, là, on reparle enfin de la taxe sur les transactions financières, ce vieux serpent de mer, mais le jour où l'économie spéculative vous la mettez à contribution, croyez-moi, ceux qui en bénéficient ne vont pas se sentir plus mal, peut-être que leur yacht de luxe sera à 2 mètres de moins, mais je peux vous dire que les marges qu'on donnera aux États, et ce qui ira aux plus pauvres, là, ils en verront véritablement le changement. Donc c'est là qu'il faut que les États se donnent les moyens. Et pour se donner les moyens, il faut aller les chercher. Et dans une Europe à 27, si on a des règles fiscales communes, aucune structure ne va quitter l'Europe. C'est le premier marché économique européen. Personne ne peut se passer de l'Europe. Voilà. Seul un État comme la France, si elle met des règles trop fortes, évidemment, il va y avoir des délocalisations. Mais nous devons imposer au niveau Europe des règles fiscales qui permettent enfin de réaliser nos objectifs et notamment de solidarité.
Et comment le faire alors si on n'est pas effectivement...
D'après Charlotte, nous sommes arrivés au quasiment au terme.
Je suis bavard.
Non, mais vous avez répondu à une question que je vais vous poser, mais vous avez répondu. C'était sur la démocratie. Quelle était la démocratie? Y a-t-il une démocratie idéale? Vous avez posé une autre question et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez dit tout à l'heure que les politiques ne prenaient pas le temps de se retirer du monde. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Michel Rocard, systématiquement, se retirait un jour, alors je ne sais plus si c'était par semaine ou par mois, mais se retirait du monde pendant un jour par semaine, même quand il était Premier ministre. Donc pour dire que ça peut exister, ça a existé, et c'est certainement une démarche qu'il faut mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'on va vite, parce qu'on fait beaucoup de choses, on répond en fait à l'attente des citoyens.
Vous avez cité un des hommes politiques les plus modernes de son époque.
Je suis d'accord.
Parce que malgré son âge, il a toujours réinitialisé ses paramètres.
Mais ce qui est extraordinaire, parce que je fus jeune au moment du club de Rome, et pour dire, j'ai suivi Rocard depuis qu'il était au PSU, donc vous voyez, il y a une histoire d'ailleurs entre Rocard et moi. Alors il y avait une question par là-bas, je crois.
Je vais essayer d'être court,
peut-être deux, mais voilà.
Alors, est-ce qu'il y a une autre... Attendez, est-ce qu'il y a une autre question à part celle-ci?
C'est bon.
Bon.
Bonjour. C'est une question et à la fois un constat. C'est la perception de l'écologie comme étant quelque chose de négatif. C'est-à-dire que systématiquement, l'écologie est perçue par le citoyen lambda comme étant systématiquement une contrainte et non pas une chance. Et ça, c'est très désagréable. Et vous citiez tout à l'heure le cas du Niger, où il y avait l'humiliation. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Il suffit d'ici d'être à quelques kilomètres d'ici. Et je vais prendre un exemple. Ce qui est vécu comme une véritable humiliation, alors que ça devrait être présenté différemment, c'est par exemple le remplacement des chaudières à fioul. Vous affolez, on affole ici toute une population souvent âgée pour dire en 2021, en 2022, en 2023, vous ne pourrez plus remplacer votre chaudière à fioul et vous devrez trouver des choses autrement. Cette population âgée a souvent des ressources assez limitées pour remplacer son équipement, qui plus est, quand on arrive à 75 ou 80 ans, on n'a pas forcément envie de faire des travaux dans sa maison. Donc on est à travers cette mesure dans la négation. Et moi, je trouverais qu'il serait beaucoup plus intelligent, même si on est bien d'accord, qu'il faut donner une date, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, sur ce changement, sur cette planification, mais il serait beaucoup plus intelligent d'avoir les gens en accompagnement, parce que si vous n'accompagnez pas les gens, vous reviendrez. D'ailleurs, ça s'est fait très récemment, 15 jours après, on a dit que cette mesure, tout compte fait, ce ne sera pas tout à fait la même chose, on va les accompagner, il y aura des produits de substitution. Alors qu'en fait, si on avait présenté la chose d'une manière un peu plus optimiste, un peu plus volontaire, les choses auraient... Il faut provoquer l'adhésion et non pas la répression, par définition, au départ. Bien sûr, il faudra un jour arriver à la répression pour les cas qui sont manifestement de mauvaise volonté, mais... Ce n'est pas. Il faut faire adhérer notre population à cette démarche. De prime abord, comme disait Jules Romain à l'issue de la guerre 14, c'est unissons les hommes et les femmes de bonne volonté. Eh bien, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et malheureusement, alors vous l'avez peut-être souligné tout à l'heure, à travers des médias qui ont un prisme déformant et qui retiennent peut-être que la petite phrase. Mais la perception dans nos terroirs est quelque chose de négatif, alors qu'en fait, il faut être positif.
Donc, j'avais juste
un
complément par rapport à cette question-là. Est-ce que lorsqu'on passe d'un système que l'on dénie, vous parliez des voitures diesel tout à l'heure, à un système que l'on encourage, comme les voitures électriques, alors qu'on n'en connaît pas tous les tenants et tous les aboutissants, est-ce que de l'un à l'autre, on n'est pas dans un excès qui est aussi un excès préjudiciable à la vue même et à l'opinion qu'on peut avoir de l'écologie?
Dans l'exemple que vous donnez, vous mettez en lumière que malheureusement, souvent, en matière de solutions, il n'y a jamais de solution parfaite. Donc il y a des solutions qui sont transitoires. C'est-à-dire qu'entre deux systèmes, il faut bien s'accommoder de prendre le moins mauvais. Et vous prenez l'exemple de la voiture électrique qui n'est pas la panacée, puisque en l'état des technologies d'aujourd'hui, on sait notamment que pour les batteries, elles font appel à trois métaux rares qui ne se trouvent que dans certains pays, dont les conditions d'extraction se font dans des conditions sociales absolument inacceptables, et que si demain on remplace toute la flotte thermique par ces voitures électriques, on aura le même problème, voilà. Mais il faut que le coup soit parti, on va peut-être trouver, et ça commence, des batteries qui auront des composants différents, et surtout rentrer dans des systèmes d'économie circulaire. Et à cette période de transition, il n'y a jamais une solution, enfin très rarement une solution parfaite, mais là on veut sortir du carbone, donc la priorité c'est celle-là, mais il y aura des effets rebonds, bien entendu, peut-être que ça rendra plus difficile, selon certains, j'en suis pas convaincu, mais on va pas engager le débat, la réduction de la part du nucléaire. Oui, il y a des effets rebonds, comme d'habitude. Alors après, sur la question que vous posez, au-delà de revenir sur le cas particulier, parce que c'est celui que vivent au quotidien les gens, la perception que vous donnez, l'écologie étant quelque chose de contraignant. À l'échelle globale, avant de répondre sur ce point-là, souvent on me dit oui, l'écologie c'est contraignant. Sans doute, parce que ça nous impose de changer nos habitudes et parfois des conséquences comme celles que vous venez de... Ce qui va être très contraignant pour tout le monde, jeunes, vieux, pauvres, riches, c'est le jour où on va basculer dans des conséquences qui vont nous échapper. Parce qu'on dit souvent l'écologie, c'est encore aujourd'hui j'entends ça, c'est une préoccupation de riches qui veulent éviter de nous faire revenir à la lampe à pétrole et de vivre comme des Amish. Enfin, en attendant, je trouve que c'est plus le moment de dire ça, parce que par exemple ce qui s'est passé dans le sud-est de la France, c'est une conséquence de la crise écologique. Et des événements qui étaient exceptionnels vont devenir récurrents. Le jour où on va avoir, et je peux vous dire, parce que j'étais en charge des ressources en eau quand j'étais ministre, des pénuries d'eau dans certains départements et régions françaises, croyez-moi, là, les contraintes, on sera obligé de passer à des quotas. Bon, voilà. Donc, ce qui va être très contraignant et qui peut mettre en péril nos acquis démocratiques, c'est si à un moment ou à un autre, justement, on bascule de la rareté à la pénurie, et si les phénomènes globaux dans le monde provoquent des déplacements de millions de personnes. Ça va être contraignant. Alors pour autant, ça n'exonère pas des excès ou des maladresses, bien entendu. Et c'est pour ça que quand je vous parle de mes trois principes, sur les chaudières à fioul, pour prendre un exemple précis, oui, il faut se fixer une date. D'abord pour une interdiction des ventes de chaudières à fioul, pour faire en sorte que l'on tarisse l'offre. Mais pour les personnes dont vous parlez, il ne faut pas les mettre dans une impasse. C'est-à-dire que si elles doivent changer de chaudière et leur donner une date pour qu'ils aient du temps pour s'y préparer, il faut qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les revenus qui n'ont pas les moyens. Pour les autres, il faut leur donner une incitation fiscale, bien entendu. Mais pour les revenus modestes, il ne faut aucun reste à charge. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir simplifier la démarche pour pouvoir dire « voilà, je voudrais changer ». Et que la personne âgée, elle est juste à recevoir quelqu'un qui va évaluer, qui va regarder la chaudière qui va bien au niveau du volume, au niveau de la taille, etc. Et qu'elle n'ait rien à débourser. Donc c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Donc c'est pour ça la progressivité dont je vous parlais, pour laisser personne, ne mettre personne dans une impasse. Et en fonction, évidemment, des objectifs, ben, il faut laisser un peu de temps, un peu plus de temps, ou voilà. Là, le glyphosate, moi, quand on l'a interdit, pour ne parler que de ça, parce que c'était très impactant pour une partie du monde agricole, bon, on avait dit 3 ans, moi à la limite si ça avait été 5 ans, mais assorti, si on avait cranté dans la loi, ce que l'on n'a pas fait, voilà. Mais à partir du moment où on disait c'est 3 ans ou 5 ans, il fallait mettre le paquet avec l'INRA pour évaluer mode de culture par mode de culture là où il y avait des alternatives, les rendre accessibles aux paysans concernés, et puis là, et en fait il y a très peu d'endroits où il y a des impasses, il n'y a pas d'alternative,
on met la recherche à fond, on donne des moyens à la recherche, et on regarde, notamment par ce qu'on appelle le biocontrôle, comment on peut faire pour se passer de glyphosate. Donc c'est vrai. Mais là aussi, vous avez raison. On peut critiquer les écologistes, parce que parfois, ils sont maladroits, et dans les écologistes, je mets tout le monde, mais je m'y mets aussi. Peut-être que, mais parce qu'on nous a dotés d'une responsabilité immense, on n'est pas assez bon pour créer l'imaginaire de demain. C'est-à-dire pour dire, on dit souvent, il ne faut pas faire ça, pour telle raison, mais il faut qu'on arrive tous ensemble, et c'est pour ça que chacun devrait contribuer. À quoi peut ressembler la société de demain? À quoi peut ressembler le modèle économique? Est-ce qu'on sera plus malheureux? Non, non. Je pense que tout ce qu'on va, comment dire, libérer en matériel, on va le retrouver à défaut dans spirituel, en relation humaine.
Grand merci à vous. Pour terminer, je voulais juste, vous avez beaucoup cité d'auteurs, dont l'un de ceux qu'on aime beaucoup, qui est Saint-Augustin. Mais je vais terminer par André Gide, vous voyez. C'est pas la même chose. Et il disait, l'utopie d'aujourd'hui deviendra réalité de demain. Ben, je crois qu'en vous écoutant, c'est un peu ce qu'on a compris. Merci.